Votre revue de presse, Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. C'est une histoire de famille. Cette phrase est la première de l'enquête qu'on découvre dans Le Parisien ce matin. Une histoire de famille, et le mot famille est écrit ici avec un F majuscule. La famille, c'est le nom d'une communauté religieuse secrète, installée depuis maintenant 2 siècles dans l'est de la capitale. Elle compte environ 3000 membres et ceux-ci ne se marient qu'entre eux, précise d'emblée le sous-titre. Pour la première fois, certains témoignent sous la plume de Nicolas Jacquard. Pauline, 59 ans, a fui cette communauté quand elle avait 20 ans. Elle évoque une secte passive dans laquelle les gens vivent coupés du monde. On ne peut en être adepte que par le sang, précise Robin, 40 ans. Ma jeunesse n'a été que pression psychologique et affective. On nous effraie en permanence sur la dangerosité de l'extérieur, résume Patricia, qui s'est émancipée à l'âge de 23 ans. Dans cette famille, les filles ne doivent pas travailler, les garçons ne doivent accepter que des fonctions subalternes. Dans cette famille, la contraception est interdite, les femmes sont là pour procréer. Et dans cette famille, on s'épouse vierge et très jeune. Famille nombreuse et prolifique, certains immeubles HLM de l'Est parisien lui sont presque entièrement dédiés, avec des foyers qui peuvent compter jusqu'à 18 enfants. Faute d'ouverture au monde, la consanguinité est récurrente, on se marie entre soi et les conséquences sont parfois douloureuses à cause du manque de brassage génétique, des handicaps, des maladies auto-immunes. Et ils détonnent quand ils sont inscrits à l'école, les enfants, des hordes de cousins qui portent le même patronyme et qui ne jouent qu'entre eux. On leur apprend à ne pas fréquenter les autres et ils doivent arrêter leurs études à 16 ans. L'article évoque aussi plusieurs témoignages d'abus sexuels intrafamiliaux, mais l'absence de prosélytisme rend cette famille hermétique au service de l'État. Pour autant, la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, vient de rédiger une note à son sujet. Une famille qui régente à la fois les corps et les cœurs.
On trouve d'ailleurs d'autres histoires de famille dans la presse.
Dans la famille de Kim Jong-il, je demande la sœur. Kim Yo-jung, la sœur du dictateur nord-coréen. Son portrait est à lire dans le journal du dimanche. Elle est l'héritière qui monte au front et qui s'impose aujourd'hui comme l'une des personnalités les plus puissantes du régime. Depuis quelques jours, rapporte Camille Neveu, la sœur de Kim Jong-il signe des éditoriaux en son nom dans l'organe de presse officiel et mardi, c'est elle qui a ordonné la démolition du bureau de liaison entre les deux Corées. Ce bâtiment était un symbole du dialogue au nord de la zone démilitarisée. La petite sœur du tyran n'a eu qu'à prononcer une phrase le week-end dernier. L'inutile bureau de liaison devait être détruit. Il n'en reste aujourd'hui qu'un tas de gravats.
Et dans la famille El Chapo?
Je demande le fils. El Chapo, célèbre baron de la drogue au Mexique, c'est-à-dire sur Slet. En octobre dernier, une opération militaire avait été menée et elle avait mené à la capture de son fils Ovidio Guzmán, une arrestation qui avait provoqué la fureur du cartel de Sinaloa. Des centaines d'hommes lourdement armés envahissaient les rues pour décharger des rafales de balles et ériger des barricades enflammées. Ils réclamaient la libération de leur chef et leur chef, Ovidio, avait été très rapidement libéré. Vendredi, lors d'une conférence de presse, le président mexicain a pour la première fois reconnu que c'était lui qui avait ordonné la libération du rejeton d'El Chapo. C'était, a-t-il dit, pour ne pas mettre la population en danger. Autre histoire de famille, sur le site Les Jours. Retour en France, histoire tristement banale. Avec une pointe d'espoir, cependant, l'histoire de Nathalie, frappée et menacée de mort par son mari. Mais ce qu'on découvre dans ce reportage de Sophie Boutboul, c'est l'action de l'USAP, l'unité spécialisée dans l'accompagnement du psychotraumatisme. Alors que Nathalie était à l'hôpital, une équipe de l'USAP a fait venir la police à son chevet. Sa coordinatrice explique qu'en procédant de la sorte, ça facilite le dépôt de plainte. Dès lors, dit-elle, il n'y a donc plus le questionnement de savoir si la femme va être ou pas entendue par la police.
À la une, on trouve également la photo de 2 hommes politiques.
Celle d'un ancien Premier ministre dans le journal du dimanche. Et derrière lui, en retrait, son épouse Pénélope, affaire Fillon, le poison du doute. Titre l'hebdomadaire qui revient en détail sur, je cite, les coulisses d'un scandale qui a peut-être changé le cours de l'élection présidentielle. Ce scandale, ce sont donc les pressions évoquées, puis très vite réfutées par l'ancienne procureure financière. Autre ministre interviewé cette fois dans Le Parisien, c'est celui de l'Intérieur, avec son visage à la une et cette citation « Je ne lâcherai jamais les policiers », un soutien sans faille, dont ont pourtant douté les intéressés quand il a évoqué des suspensions en cas de soupçon avéré de racisme. Cette formule n'était pas la bonne, reconnaît Christophe Castaner. Précisant sa position, ce qu'il voulait demander, c'est qu'une mesure de suspension soit systématiquement envisagée dès lors qu'il était établi qu'il y a eu acte ou propos raciste. Question du quotidien, souhaitez-vous rester ? Oui, je souhaite rester ministre de l'Intérieur, mais aucun ministre n'est propriétaire de sa fonction. Rares sont ceux qui croient qu'il va rester ministre de l'Intérieur, y compris dans sa famille politique.
Enfin, l'épidémie du Covid-19 continue d'occuper une large place ce matin dans les journaux.
À lire notamment dans Le Monde, ce reportage 24 heures avec les premiers de corvée. Dans de nombreux secteurs, et en premier lieu celui du nettoyage, la crise sanitaire a mis en lumière l'importance de la main-d'œuvre de personnes sans papier. Des hommes et des femmes qui n'ont pas compté leurs heures, les appels à la régularisation de ces étrangers se multiplient aujourd'hui. Dans l'Alsace et dans les DNA, on s'intéresse à nos façons de consommer. Faut-il continuer d'acheter des vêtements neufs, par exemple ? La crise n'est-elle pas l'occasion de miser sur l'occasion ? Dans l'Obs, on nous invite à voyager différemment. Sonné par la crise du Covid-19, le secteur entame son mea culpa sur le tourisme de masse pour se tourner vers un tourisme éthique. Enfin, dans l'équipe, on lit le témoignage d'un footballeur, Adrien Tamézé, 26 ans, milieu de terrain à Nice, prêté à l'Atalanta fin janvier. Il s'est retrouvé, lui, confiné à Bergame, épicentre européen de la pandémie de Covid-19. Voilà ce qu'il dit. Pour ma famille, c'était l'angoisse. Le footballeur va bien, sa famille est aujourd'hui rassurée.
Frédéric Pommier pour la revue de presse qui fait partie de la grande famille de France Inter, évidemment.
Très belle famille.
Très belle famille.